Dans la première lecture, nous avons entendu le prophète Jérémie qui dénonce les mauvais pasteurs, qui dénonce tous ceux qui, voulant conduire le peuple, le conduisent pour ses propres intérêts. Et il ajoute, et c'est cela qui nous intéresse, il promet un événement des bons pasteurs qui arriveront, un bon pasteur qui arrivera. Et cette certitude habite le peuple juif depuis ce temps-là. Et elle va se réaliser pour nous en Jésus-Christ. Et c'est justement ce que nous dit la deuxième lecture de saint Paul qui nous rappelle que Jésus est celui qui donne sa vie. Et c'est cela le bon pasteur. Hein. Le bon pasteur, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et c'est en Jésus que nous le reconnaissons. Et donc nous avons Jésus comme unique pasteur. C'est cela dans l'Église que nous formons, l'Église universelle. Eh bien, il n'y a qu'un seul pasteur, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui qui est notre référence. C'est lui qui est notre guide. C'est lui que nous suivons. Et c'est lui que nous cherchons à être à l'écoute. C'est le sens pour lequel, dans l'Église, habituellement, il y a toujours un crucifix au centre de l'Église qui oriente notre prière, même si le prêtre, souvent, célèbre face au peuple, il célèbre aussi face à un crucifix. Nous sommes tous tournés vers le crucifix. Donc ce pasteur, c'est l'unique pasteur, notre unique pasteur, et vers le qui donne sa vie sur la croix et nous rappelle comment il est pasteur, de quelle manière il est pasteur, comment il nous guide. C'est par ce mystère du don de sa vie totale qui nous sauve et qui nous guide. Et nous avons le très beau psaume 22, et c'est ce sur quoi je voudrais vraiment que nous soyons attentifs. Je ne sais pas si vous le connaissez bien, ce psaume 22. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés des refrains, il me fait reposer. » C'est un psaume qui traditionnellement était utilisé pour la célébration des baptêmes dans l'Antiquité, qui encore aujourd'hui peut être utilisé, il est parfois utilisé. Il est utilisé aussi pour les inhumations, bien souvent aussi. Parce que c'est un psaume qui nous montre que quand on prend le Seigneur, c'est-à-dire le Christ pour nous, le Seigneur comme berger, comme unique berger, eh bien, je ne crains aucun mal. Même si je traverse les vallées de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton me guide et me rassure. Et c'est vraiment cela que nous sommes invités à vivre. Et je vous encourage à lire ce psaume, à le prier, à le méditer. Le Seigneur est un véritable berger, mais qui ne guide pas son peuple, ses brebis, son troupeau, comme on pourrait le comprendre spontanément. Il le guide simplement en étant à nos côtés et en donnant sa vie. Il le guide en se donnant totalement à nous. Et c'est ce que nous vivons finalement dans chaque Eucharistie, chaque messe. C'est pour ça que les chrétiens, depuis l'Antiquité, eh bien, quand ils se retrouvent le dimanche, ils célèbrent la messe. Ils ne font pas des adaps. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les assemblées en absence de prêtres. Ils en font quand vraiment il manque de prêtres. Alors c'est le deuxième point qu'il fallait que je développe. C'est-à-dire que le Seigneur choisit de pauvres hommes pour être pasteurs en son nom. Mais il faut bien, déjà au début, et garder cela dans son cœur de façon très ferme et de façon décisive, c'est le Seigneur qui est notre unique berger. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui, c'est sur lui que nous reposons notre confiance. Il n'y en a pas d'autre. C'est avec lui que nous voulons cheminer. Et donc, c'est d'abord cette relation à Jésus, ce point de référence sur le Christ. Et donc, le psaume 22 peut nous y aider. Il y a même une allusion au sacrement. Il est dit qu'il dresse une table pour moi, c'est l'Eucharistie. « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie », dit ce psaume. Quand on vit complètement, quand on vit radicalement ce lien à Jésus comme notre unique berger, et quand on met notre espérance uniquement en lui, non pas en autre chose, eh bien, nous avons nous, grâce et bonheur, nous accompagne tout au long de notre vie. Nous ne craignons rien. Je vous invite vraiment donc à bien réaliser cela. Je parlais de l'Eucharistie à l'instant, et je parlerai aussi volontiers, j'évoquerai aussi volontiers l'adoration. Hein, dans l'adoration eucharistique, nous regardons le Christ crucifié et ressuscité, présent dans l'hostie. Et nous le prenons comme notre berger, et nous pouvons réciter devant le Saint-Sacrement, nous pouvons réciter le psaume. Le Seigneur est mon berger, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, quelle que soit ma vie. Parce que de fait, dans la brebis, ne fait pas ce qu'elle veut. Alors on n'aime pas trop être pris pour des moutons, on n'aime pas trop, surtout dans les temps qui courent, on ne veut pas être des moutons, et vous avez raison. Mais sauf avec le Jésus. Avec Jésus, il faut accepter cette démaîtrise de nous-mêmes, de nos propres vies, et se laisser guider. Hein, il me guide sur des prés d'herbes fraîches, quelle que soit ma vie. Mais si je traverse le ravin de la mort, donc si je passe l'épreuve, hein, et bien, c'est toujours lui qui nous guide, malgré tout. Il est à mes côtés et je n'ai rien à craindre. Voilà. Donc voilà. Cette centralité du Christ est capitale et l'Eucharistie nous le rappelle de façon très, très radicale aussi. Hein. Dans l'Eucharistie, c'est Jésus qui agit, c'est Jésus qui se donne, c'est Jésus qui meurt pour nous, qui ressuscite pour nous, et c'est Jésus qui nous nourrit. Il nous nourrit même pas d'autre chose que lui, mais il nous nourrit de lui-même. Donc voilà, le Seigneur est vraiment notre berger et là est notre témoignage chrétien. Témoigner de notre vie chrétienne, c'est témoigner que Jésus est notre berger, que le Seigneur est notre berger et que nous n'avons rien à craindre. Grâce et bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et le deuxième aspect, c'est l'Évangile qui nous le rappelle, le deuxième aspect, en continuité avec le premier, mais sur lequel, je voulais, comme vous comprenez, j'insiste beaucoup sur le premier, parce que peut-être on l'oublie trop vite, même si on ne l'oublie pas totalement, évidemment. Le deuxième aspect, c'est que nous avons vu la semaine dernière, Jésus envoie des apôtres avec des 12 qui choisit, hein, c'était l'évangile, je crois, de la semaine dernière ou la semaine d'avant, il choisit 12 apôtres, il les envoie avec un pouvoir équivalent au sien. Ça, c'est... nous ne trouvons pas ce genre d'expérience dans l'Ancien Testament, si c'est notre référence. À Première Alliance, il n'y a pas ce fait-là. Hein, il y a des pasteurs qui guide le peuple, mais qui le guide mal, selon Jérémie, eh bien, mais c'est jamais de cette manière-là. Tandis que là, Jésus se fait le guide, hein, comme on le voit très clairement dans cet évangile, et choisit 12 apôtres qu'il va envoyer, apôtre veut dire envoyer, qu'il va envoyer, et qui vont prêcher le salut en Jésus-Christ, qui vont prêcher l'évangile, et qui vont faire des miracles comme Jésus. Hein, même, ils vont en faire même des plus grands, tels qu'on le voit en particulier dans les Actes des Apôtres. Toujours est-il qu'il choisit 12 apôtres, donc des hommes, pour leur donner la mission d'être les bergers du troupeau en son nom. Et donc, il nous faut, alors si je... C'est ce mystère hein, qui est difficile à accepter. On voit que nos frères protestants, par exemple, dans la crise qu'ils ont vécue... au moment de la contre-réforme pour nous, eh bien, eux, ils ont dit, ben non, c'est pas possible. C'est comme l'Eucharistie, ils ont dit non. Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir, parce que vraiment, c'est un pas dans la foi que de dire, le Seigneur choisit des apôtres, les apôtres vont choisir des successeurs, qui sont les évêques, avec un évêque parmi eux qui aura une primauté concrète, hein, très particulière, qui est le... Pierre et ses successeurs. Et voilà, et donc c'est par lui que le Seigneur nous guide et les évêques se font aider des prêtres, hein, qui sont des collaborateurs des évêques, voilà, mais qui rendent présents les évêques dans chaque lieu où ils célèbrent sur notre diocèse. C'est notre évêque François qui est évoqué dans la prière eucharistique avec le Saint-Père, et puis le prêtre eh bien, rend présent l'évêque qui rend présent le Christ. C'est comme ça, c'est ce lien intrinsèque entre ces différentes personnes que le Seigneur envoie. Et donc, mais à travers eux, c'est toujours le Seigneur qui est notre berger. Alors on ne peut pas ignorer que les évêques aussi. Les évêques et les prêtres se trompent, que ce sont des pécheurs, ça, il faut l'intégrer. À la différence de Jésus, qui lui, eh bien, lui, on peut le prendre comme berger sans aucune crainte, ben, en effet, nos bergers sont des misérables. Et ceci nous renvoie aussi, alors à la fois une confiance en Jésus, dans son plan, dans sa manière d'agir radicale, et nous renvoie aussi à notre relation avec nos pasteurs, et en particulier à la prière que nous formulons sur eux. Est-ce que nous prions pour nos pasteurs ? Non, je n'en doute pas. Je sais que beaucoup d'entre vous prient pour leurs prêtres, certains me le témoignent, mais c'est quelque chose de tout de même très important. Vous savez que les pasteurs, hein, comme dans Jérémie, hein, dans le livre du prophète Jérémie, les pasteurs seront jugés, hein, sur la manière dont ils ont exercé leur mission. Le curé d'Ars, ça l'effrayait un peu. Mais c'est vrai que, et parfois, nous, pasteurs, nous l'oublions. Et il faut prier pour eux. Il ne faudrait pas qu'ils négligent leur mission et qu'ils s'égarent. Voilà. Donc, priez pour vos pasteurs, portez-les. Moi, je vous invite, hein, si je puis me permettre, de prier tous les jours pour vos prêtres, en particulier les prêtres de vos paroisses, ensuite votre évêque, puis le Saint-Père aussi. Hein, c'est une prière très courte, pas besoin de faire une longue prière, mais d'avoir une pensée quotidienne pour eux. Leur charge est importante, non pas dans le sens où ils ont plus de soucis que vous dans vos... Non, mais leur charge est importante devant Dieu. Ils ont une grande responsabilité devant Dieu. Et donc, il nous faut prier pour eux, vraiment. Ces pasteurs, donc tous ces pasteurs, ces successeurs des apôtres, eh bien, ils sont unis autour du Saint-Père et ils guident ensemble le peuple de Dieu. Et particulièrement, donc, dans un diocèse, c'est l'évêque du lieu qui continue à agir au nom de Jésus. Mais, comme vous le remarquez, c'est toujours dans l'Eucharistie que le Seigneur nous guide, et on voit bien que dans l'Eucharistie, eh bien finalement, on retrouve Jésus directement. On ne fait pas de détour. On retrouve Jésus. Il nous faut certes un prêtre pour célébrer l'Eucharistie, mais en même temps, c'est Jésus qu'on rencontre. Hein, donc on voit bien que ça ne nous éloigne pas de Jésus, le fait que le Seigneur ait choisi 12 apôtres. Mais au contraire, ça nous permet de le rencontrer encore plus vite à travers les sacrements, et particulièrement l'Eucharistie. Voilà, priez pour vos pasteurs, pour qu'ils soient fidèles à leur mission, priez pour qu'ils sachent se reposer quand il faut, puisque là on voit dans l'évangile, il y a un temps pour tout, hein. Jésus, allons à l'écart, bon, il se trouve qu'ils vont aller à l'écart, puis finalement, Jésus va être pris de pitié et va pas se reposer. Je sais pas, les apôtres peut-être ils se reposeront, mais pas lui. Et puis, priez pour qu'ils aient le souci de la foule sans berger. Pour qu'il soit attentif à ceux qui se sont égarés, à la brebis égarée. Voilà, portez vraiment cela dans votre cœur. Portez-les, ils ont une vraie responsabilité devant Dieu. Voilà. Cet évangile peut être quand même appliqué à chacun de nous. Hein, il nous faut, je veux terminer par là, il nous faut prendre l'évangile aussi pour chacun, dans le sens où le Seigneur nous enseigne à travers cela. D'une part, il nous demande de témoigner. D'autre part, il nous demande de rendre grâce. D'autre part, il nous demande de nous reposer quand il faut. Pas trop souvent, mais suffisamment. D'autre part, il nous demande de prendre du recul, hein, de partir en retraite, comme on dit. On se retire, hein, du recul. Il faut aussi que nous tous soyons sensibles au peuple de Dieu, et que nous soyons sensibles à cette foule qui n'a pas encore accueilli Jésus, ou aux brebis égarées. Nous aussi, nous avons apporté cela avec nos pasteurs. Nous aussi, nous sommes appelés aussi à évangéliser. Hein, cet évangile est aussi pour chacun. Hein, donc le Seigneur nous aide aussi pendant ce temps d'été à vraiment grandir dans les sentiments du Christ, comme on dirait, sentiments du Christ pour vivre comme Jésus et pour avoir cette même sensibilité et savoir et oser parfois témoigner de notre foi auprès de ceux que nous rencontrons. Pendant l'été, parfois, on a des occasions. Ceux que nous rencontrons, oser dire, non pas prêcher la bonne parole dans le sens moraliste et pénible, pour ceux qui nous écoutent, mais témoigner de ce qui nous fait vivre. Qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me rassure? Qu'est-ce qui fait que grâce et bonheur m'accompagnent tout au long, tous les jours de ma vie? Qu'est-ce qui fait cela? C'est Jésus. et témoigner de Jésus dans ma vie. Voilà, que le Seigneur nous aide. Amen.